on arrive par là, là, c'est ta... c'est les bois et ça, c'est plus loin derrière, c'est ta maison.
Ah bah ouais, d'accord.
Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir racheter ta maison et de raser les bois. En fait, ta maison, elle est mise en vente le 22 août aux enchères. Ça fait des mois, enfin des années même, que vous n'avez pas payé les traites, toi et Pauline. Du coup, je vais la racheter. On va tout raser, on va encore s'agrandir.
On a tendu nos micros aux vieux.
Aux vieilles.
On s'est inspiré des planches de Fab Caro.
Et de Pénélope Bagieux.
On a écouté Pascal Comlade, Hyperculte et Julia Kent.
Et là, on écoute Yann Tiersen.
On a entendu un extrait de Pour le réconfort de Vincent Mackay.
Ce soir, on était 7 dans les studios de Radio Canu.
Et c'était la première de Tago.
Bienvenue Tago.
Bravo. Et c'est aussi l'anniversaire de Pull. Joyeux
anniversaire.
Bon, elle a pris un coup de vieux quand même.
Ouais, non, mais 28 ans, c'est abusé. Hein.
Mayday part 2 semaines en vacances.
Notre prochaine émission, ce sera en public.
Oh, oh.
Ouais, à la Méandre, à Chalon-sur-Saône.
Le 6 novembre à 18h.
Alors venez. Et pour celles et ceux qui peuvent pas venir, ça sera retransmis en direct sur les ondes de Radio Canu à 18h aussi.
Et dans un instant, c'est les infos. Allez, bisous.
Bisous.
C'est bien vrai ça.
Demandez-le le journal des jours, le journal. Le voici, c'est celui d'aujourd'hui même, le journal, allez-y, le journal.
Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
Radio Canu, 102.2.
Canu Info.
Gloire au journal.
Bonsoir.
Et c'est l'heure du
Canu Info
du mercredi.
Les Canu Info.
Canu Info
du mercredi.
Bonsoir, il est 19h passé de 4 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Ah mais ces salauds de Mayday nous ont encore pris du temps, on n'en peut plus nous. Après on va être obligé de terminer à 20h25 au lieu de 20h21.
Exactement.
Et ce soir on parlera des saignées dans les budgets des radios associatives.
Ensuite on parlera de... Ah bah moi j'ai pas le
ah,
final.
Ah, zéro artificialisation.
Il faut que tu parles
si
dans le micro parce que personne
t'entend. Côté.
Personne m'entend parce que ce micro ne marche pas.
Bon, après on parlera de cette loi zéro artificialisation nette et du fait que ça y est elle revient un peu sur le grill.
Ensuite on aura des brèves locales.
Ensuite on aura des brèves normales.
Et ensuite on parlera d'Israël avec son épisode 374 saison 76.
Et puis des infos du Kurdistan, on a encore mal calculé la saison et les épisodes.
Saison beaucoup, épisode beaucoup, surtout sur Radio Canu du Canu Info du mercredi.
Et donc, on commence par... Tac, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle, c'est ça. Eh ben oui, saigner dans les budgets des radios associatives. Et c'est Rachida Dati qui l'a annoncé dans le prochain PLF 2025 pour projet de loi finance, qu'on savait être un peu une saignée de partout. Mais alors, les radios associatives ne sont pas épargnées. Et le budget du FSER, je reviendrai un tout petit peu en détail sur ce que c'est exactement, il va diminuer de... Il va passer de 30 à 40%, on ne sait pas trop, en gros, il risque de passer de 35 millions d'euros à 24 millions d'euros. Alors, on va faire rapide. Le FSER, c'est le fonds de soutien des émissions radiophoniques. C'est ce fonds, c'est de l'argent qui permet aux petites radios comme nous de survivre. Les radios commerciales n'y ont pas le droit. Pour être éligible, par exemple, il ne faut pas qu'il y ait plus de 20% de ressources commerciales du chiffre d'affaires. Donc ça élimine les grosses radios. Il y a plein de pubs comme Virgin Radio, par exemple.
C'est de la pub pour Virgin Radio parce que tu as été payé pour Virgin Radio. Pour
bah non, parce que j'ai dit qu'il y avait plein de pubs, c'est rarement de la pub de faire de la pub pour les radios, plein de pubs. Ouais. C'est pour nous, Radio Canu, notre principale recette qui couvre grosso modo nos frais d'émission et un peu plus. Alors en gros, un des gros postes de dépenses, si par exemple, comme vous êtes comme Radio Canu et qu'on n'a pas de salariés, comme nous par exemple, et comme peu de radios en France, et ben le gros poste de dépenses, c'est de faire émettre le signal en FM par un émetteur. Donc ça coûte très cher. Et c'est pour nous notre principal financement. Et c'est ce qui nous permet, par exemple, nous, pour Radio, de ne pas avoir de pub, de ne pas avoir de sponsor et de ne pas avoir d'autres subventions que ce fonds de soutien. Ce qui n'est pas tout à fait une subvention, ça change un peu des trucs sur ce à quoi ça nous engage, par exemple.
C'est-à-dire qu'une subvention peut toujours vous être retirée par le subventionneur qui ne serait pas content de ce que vous faites. Le fonds de soutien à l'expression radiophonique est calculé d'une manière un petit peu précise en fonction des autres rentrées d'argent de la radio. Et y a pas une personne dans un bureau qui peut dire non mais en fait Radio Canu ce qu'ils disent ça me plaît pas et du coup on le zappe.
C'est ça, il y a différents types de valorisation très complexes dont une équipe se charge chaque année. mais effectivement c'est pas genre on les aime bien, on les aime pas, on leur donne de l'argent ou pas. Ça fait un petit moment quand même que les radios s'en prennent plein la figure au niveau de la thune. C'est le premier coup de massue a été la fin des contrats aidés. Donc ici, je le répète, à Radio Canyon, on n'a pas de salariés, donc ça nous a pas impacté. Mais il n'empêche que plein de radios amis, en tout cas plein de petites radios, ont été sacrément impactées, voire ont disparu depuis. Autre gros défi financier, c'est la diffusion en DAB+, qui est la radio numérique. L'État souhaite l'imposer d'ici 2033 et beaucoup de radios y ont souscrit. Alors au début, c'est un vieux projet qui date de longtemps, mais au début toutes les radios étaient plutôt contre, dont des grosses radios comme l'ensemble Radio France s'était mobilisé contre. Ils ont carrément changé de là-dessus, donc ça a fait qu'avant, quand ils étaient contre, bah, a priori le
nous,
projet...
Nous on était contre aussi, nous, c'était facile.
Nous on était contre aussi, et on est toujours pas trop pour d'ailleurs. Et voilà, et bon, maintenant que les énormes radios, tout le monde s'y met quand même, ça commence à être compliqué, mais là où c'est très embêtant, c'est que en gros, on peut pas d'un point de vue technique émettre on a besoin d'émettre et en numérique et en analogique, donc c'est la FM, c'est les ondes de tout ça. Et donc, on peut pas seulement passer, on pourrait se dire, ah bon, bah, on laisse nos positions de principe de côté, on n'a qu'à dire qu'on invalide le numérique, et on peut pas juste émettre en numérique parce que, en fait, il y a
sinon,
tout
dans
un tas.
La 205, j'entendrai plus, c'est ça. 206 maintenant, mais j'entendrai plus.
Il y a tout un tas de postes.
Ni même chez toi, ni même moi dans...
Arrête, peut-être que j'ai un poste super moderne chez moi.
Ouais, peut-être, ouais. Ça, ouais.
Mais en tout cas, c'est pas le cas.
En tout cas, c'est cher les postes super modernes.
C'est cher, alors ça va se généraliser, tout ça. Et effectivement, quand tu dis ce truc de voiture, par exemple, ça fait, je crois, 5 ans que c'est obligatoire maintenant pour les constructeurs de voitures d'équiper les voitures nouvelles, donc d'un autoradio DAB+.
Mais c'est pas nos auditeurs. Et je sais que tu nous écoutes pas depuis un peu plus.
Et surtout,
toi, notre seul auditeur.
Surtout, le même de manière générique, c'est par exemple, c'est 10 ans pour renouveler une voiture. Donc ça veut dire que en fait, entre le moment où ils ont passé la norme et dans 10 ans, bah, ça veut dire que les gens ont pas de DAB+ dans les voitures et les gens n'ont pas changé de poste juste parce qu'il n'y a pas de radio numérique sur leur voiture. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des radios qui émettent aujourd'hui en DAB+, eh ben, elles émettent aussi en FM pour pouvoir être de partout. Et aussi, ça change aussi sur des petites habitudes sur le poste, c'est pas tout à fait la même chose. Bref.
Et comme on vous a dit tout à l'heure, le plus gros poste de budget de Radio Canu, c'est d'émettre. Donc pour l'instant, c'est juste d'émettre en FM, mais si il faut faire les deux, ça coûte à peu près pareil les deux, non?
Ouais, c'est quelque chose près, pareil. J'ai plus les chiffres en tête, mais plus gros en gros, ça doublerait ça et ce serait juste pas possible. Donc là c'était la petite parenthèse d'AB+, mais c'est quand même assez impactant pour les petites radios, parce que même si donc nous on n'a pas de salariés, mais il y a des autres radios qui se débrouillent avec un ou une salariée. C'est un peu le cas de plusieurs radios et ça fait quand même une grosse différence. Donc voilà, nous on pourrait pas assumer ce coup-là et en tout cas diminuer de 40% le FSER, c'est faire mourir à coup sûr énormément de petites radios qui sont la voix et quand même l'expression locale de plein d'endroits en France. C'est aussi une très grande liberté de ton qui est mise en péril. On le sait, la principale censure pour le moment ne vient pas de l'ARCOM, anciennement le CSA. On peut quand même dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur cette antenne, sans qu'on soit alors avec certains cadres, mais quand même. Mais en tout cas,
pas de blague sur les manifs de flics,
par exemple. Mais voilà, on sait que quand même le plus gros problème et la plus grosse censure vient de ce qui pourrait plaire ou déplaire, pardon, à un investisseur financier. On le voit quand même sur plein de radios, enfin sur plein de chaînes télé, sur plein de médias globalement. C'est énormément présent sur les chaînes télé, ça l'est beaucoup dans les radios et ça l'est aussi dans la presse. Mais sur les petites radios comme nous, et ben en fait mine de rien, et il n'y a pas besoin de non plus d'aller chercher des radios qui sont très impliquées politiquement comme nous. Mais ça veut quand même dire qu'il y a, chaque radio peut avoir une liberté de ton assez singulière sur qui n'existe pas, je trouve, sur d'autres médias.
Je me souviens d'une radio dans le Pila qui s'appelle Radio d'ici, qui émet depuis le village de Saint-Julien-Molin-Molette et qui est une radio qui bénéficie du FSER mais qui a aussi énormément de subventions de chaque commune sur le territoire desquelles elle émet. Et un jour une présentatrice a lu en direct à la radio une lettre sur la manière dont la mairie de Saint-Julien-Molin-Molette traitait les gitans à l'époque. La subvention a sauté dans la demi-heure qui a suivi.
C'est ça, et je trouve que c'est un bon exemple. C'est effectivement, on ne peut pas faire sauter ce fonds de soutien aux émissions radiophoniques sur ça, alors qu'effectivement, une décision politique de faire sauter une subvention avec, par exemple, un Laurent Wauquiez à la région, bah, ça arrive très facilement. C'est quand même que des histoires comme ça sur les assos qui sont sautées de subventions. Et avec la loi séparatiste. Du coup, c'est vrai qu'il y a quand même plein de choses qui font que bah, là, quand même, il y a quand même un média qui est assez protégé là-dessus. C'est-à-dire que si des gens sont pas contents, ils peuvent signaler un contenu à l'ARCOM. L'ARCOM se saisit du truc, étudie. Enfin bref, c'est quand même assez précieux comme outil. Donc voilà. Bon bah, j'ai fini là-dessus. Vous en avez sûrement entendu parler. Vous en entendrez sûrement parler beaucoup dans cette radio. Et bien sûr, on vous tiendra un peu informé de la suite. Il risque d'y avoir un peu des communiqués de plusieurs groupes de radio qui vont sortir. Bref, tendez l'oreille.
Canu Info. Du mercredi.
Ah, et on va parler d'artificialisation nette. Ah, est-ce qu'on peut dire ce que c'est un petit peu?
Et ouais, bien sûr, on va dire ce que c'est. Merci. Ça fait quelques années qu'on entend parler de ce truc ZAN, ou ZAN. Comme zéro artificialisation nette. Alors c'est un truc qui aurait presque l'air radical, enfin surtout quand on entend des gens qui en disent du mal, et qui est censé protéger les sols de la bétonisation. L'idée quand même, c'est que quand il y a trop de béton partout, par terre en particulier, ça crée quelques petits soucis. Alors pas principalement des problèmes esthétiques, mais des problèmes dus surtout au fait que les sols du coup deviennent imperméables. Alors aussi que plus il y a de béton, moins il y a d'arbres, d'animaux, tout ça. Donc les arbres, c'est le truc qui atténue légèrement les moments de canicule. les animaux, c'est la biodiversité, tout ça, ça a un petit peu une importance pour juste pour la vie, entre autres, des humains sur la planète. Mais quand même, surtout, le problème, c'est que quand il pleut, et on aura remarqué, sauf en 2024, mais en tendance générale ces dernières années, qu'il pleut quand même moins souvent qu'au XXe siècle, mais que quand il pleut, ça tombe carrément plus fort. Et plus longtemps, et que ça crée parfois quelques problèmes, comme on l'a vu plusieurs fois dans le Nord cette dernière année. Enfin, des soucis d'inondation, de
machin. Et puis surtout à Nice, où c'est quand même régulier qu'il y ait des problèmes, et c'est quand même une des villes, enfin un des coins très artificialisés. Et dans une région où il y a beaucoup de problèmes de pluie, mais où c'est la seule ville où ça pose. Enfin, la seule. C'est une des villes où ça pose le plus de problèmes.
Ben voilà, parce que effectivement, il y a un lien un peu direct entre la quantité de sol qui est recouvert par du béton et la quantité de problèmes qui se passent quand il y a beaucoup d'eau qui tombe. Bref, du coup, une loi de 2021, alors qui a dû échapper aux macronistes, en vrai, moi je sais pas trop quand et comment elle a été votée, tellement elle a l'air presque raisonnable. Une loi prévoit pour l'instant une diminution de moitié du rythme de l'artificialisation des sols d'ici à 2031. C'est-à-dire que qu'on n'arrête pas de mettre de plus en plus de béton, mais qu'on le met moins vite. Et jusqu'à une neutralité nette en 2050. Ça veut dire qu'en 2050, ce qui n'aura pas été bétonné ne sera pas bétonné. Ou alors, il faudra en enlever dans quelque part pour en remettre ailleurs.
Ça ressemble quand même vachement à l'en même temps macroniste. En même temps, on bétonne, en même temps, on bétonne pas. Et c'est le problème, ça. C'est pour 2050 que ce sera arrivé.
Mais c'est tellement macroniste, effectivement. Alors concrètement, ça veut dire qu'on va construire moins. Ou alors qu'il faudra d'abord démolir. Et puis, tout ça devrait servir à ce qu'il reste malgré tout quelques coins de terre, quelques coins de boue, d'herbe, de marais même, tout ça. Vous imaginez qu'il y a un paquet de gens, bien sûr, qui sont complètement scandalisés par ce truc-là. Et que ces gens sont justement un peu plus nombreux dans les milieux où il y a du pognon et où il y a du pouvoir. Et pas mal en particulier chez les promoteurs immobiliers et chez les maires qui visent pour leur commune l'expansion économique comme le maire de Jaligny dans un des plus beaux films français. Bon, du coup, le parti qui mélange les promoteurs immobiliers et les élus locaux, c'est, alors pas les macronistes parce qu'eux ils ont toujours beaucoup de mal à se faire élire localement, c'est les républicains. C'est justement ceux qui maintenant sont au pouvoir. Même si on ne sait pas trop pour combien de temps, eux en tout cas ils sont persuadés que ça va durer un peu, alors ils y vont, et ils y vont carrément. Et ils viennent donc de nous pondre un rapport. Alors quand ils ont lancé le rapport, hein, il faut bien comprendre qu'ils ne pouvaient sans doute pas trop se douter qu'ils allaient arriver au pouvoir bientôt, parce qu'à l'époque tout le monde savait que leur parti faisait un peu 5% à quelque chose près. C'était juste pour le plaisir de râler. Mais là, tout d'un coup, ils ont l'impression de pouvoir réaliser tous leurs rêves les plus fous. Et la principale conclusion du rapport, c'est à peu près ça. Bien que les élus locaux qui ont été rencontrés par les rapporteurs s'accordent sur la nécessité d'une sobriété foncière, ils dénoncent un objectif qui est déterminé de façon arithmétique, sans aucune prise en compte des réalités dynamiques locales. Le rapport des sénateurs, qui a été voté par des représentants de tous les groupes parlementaires de la Chambre haute du Sénat, quoi, à part les écologistes. Mais donc tous les autres groupes ont bien voté parce que tous se trouvent que quand même cette histoire de zéro artificialisation nette, ça craint. Ce rapport suggère donc qu'il faudrait faire quelques évolutions législatives et réglementaires. Alors attention, hein, ils l'ont bien dit et redit quand ils ont présenté le rapport, ils ne veulent pas toucher à l'objectif final. Ils ont aussi affirmé que la réduction de 50% dans la première décennie, les interrogeait fortement. Alors comment on fait quand on veut niquer un truc sans toucher à l'objectif final? On commence par dire que le rythme et la méthode ne fonctionnent pas. Et donc on avance quelques propositions pour améliorer l'application de la ZAN avant 2031. Et les propositions, c'est quoi? Eh bien, c'est que les territoires puissent par exemple dépasser quand même les 20% de 20% leur droit de bétonner, sans avoir besoin de justification spécifique. Que les implantations d'industrie et de logements sociaux soient exemptées du décompte. Ça veut dire que, non, mais pas, si c'est des logements sociaux quand même, c'est important. Du coup, on les met pas dans le décompte. Et puis, si c'est des industries, bah, ça donne du travail et du pognon aux riches, c'est important. Donc, on les met pas dans le décompte. Que les financements, que des financements soient aussi accordés pour aider les communes. Bon, bah, si vous voulez construire des trucs en plus, on pourrait quand même vous filer du pognon. Pour après 2031, les sénateurs recommandent aussi de développer des outils d'aménagement et d'ingénierie pour les territoires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire pour obtenir des données de consommation d'espace plus fiables. Bon, du charabia, je pense que ça veut dire, voilà. Et la mise en place d'une démarche ascendante. Ouais, ça, pareil, on a du mal à comprendre. Où chaque collectivité...
Ils vont filer du pognon à McKinsey.
Ouais, c'est ça. Mais alors attendez, la démarche ascendante, là petit à petit, ça va nous aider. C'est une démarche ascendante, mais l'important est surtout dans une démarche ascendante où chaque collectivité planifierait elle-même son développement territorial, sans enveloppe limitative préétablie. C'est-à-dire que on leur dirait, vous avez plus le droit d'artificialiser, sauf si vous en avez envie. Et le groupe qui a écrit le rapport pose la question, ne faudrait-il pas, plutôt qu'un objectif chiffré à la fois contraignant et illusoire, réaffirmer un objectif général de sobriété foncière, ambitieux mais moins coercitif? Donc là on en revient à vous rappeler pour les gens qui étaient déjà nés en 2014, la COP21 et l'accord de Paris, c'est le moment où tout le monde avait été tellement content d'être arrivé à un accord non contraignant où tous les pays allaient pouvoir dire non mais moi je vais faire des efforts et donc faire les efforts. Résultat, aucun pays n'a jamais fait aucun effort. Et ben là, les sénateurs de droite proposent exactement la même chose pour l'artificialisation des sols. Bon, vous voyez le topo, c'est donc une écologie non punitive, donc non contraignante, donc pas d'écologie. Alors, on n'en a pas beaucoup des outils législatifs, comme on dit, ça veut juste dire des lois, qui servent à protéger un tout petit peu contre les catastrophes climatiques, mais ne vous inquiétez pas, la droite sait très bien repérer les rares qui existent et va tout faire pour les dynamiter.
Bon, et ben moi, le temps que je finisse une info rapidos, on va s'écouter une petite musique et c'est une rappeuse et un rappeur du Liban.
أو عاتفاق ما تكون الإنسان اللي اتدرج بلده ينهين بعدين فات ما تحمل السلاح مول وقت انتخابات يا خي اللي فات مات سقنا من فوضى الحال في مؤسسات عم تخلق كل هالحساسيات شر بكاد عربسات لعب بالكلمات غسيل دماغ بالبروغرامات والدعايات عم دعايات حيطبق مش بيبيع أمان بس أدعي كل الشعب إنه يستفهم ويقوم البرامج السياسية قبل ما صوته يأمم عم عمم وقفوا اللي عم بيسمم ويصمم عالتحريض السياسي ليضمر صوتك فيك تتأمن تتمدن تثبت انه بلدك ما بيتقدم لحدا ابدا ما حنتخلى عن ارضنا فاهم لو قد ما حربتو لبنان اخضر دايم سيد الاقتراح يكون علبة زجاجية فيها شفافية لتضل الاصوات هي لازمنا الديمقراطية لتبقى القرار اللبنانية والحرب الطائفية صباح زيران يوم التعبير بحرية هيئة اشراف مراقبة قصوى بالعملية صوتك قلك او قلك بس مش للبيع شغل عقلك ما تعمل شو ما قلك لك فيه وسمع صوت للوحدة الوطنية انت صوت ضد اي طائفية انت صوت ضد الالعاب السياسية انت صوت صوتك مثال للحرية انت صوت للوحدة الوطنية انت صوت ضد اي طائفية انت صوت ضد الالعاب السياسية انت
Mind eyes and ears open to see it goes again. This is the mirror. Notice the tears. Voting that all depends on you. Don't make the same mistakes you made before and put a country at stake to vote for the candidate that pays you more. I'm in the streets screaming, go vote until my voice gets sore. Holding up a banner for the people, reading the choice is yours. Billboards, posters, and TV ads are poison boards. We need to form a country that we can both enjoy. So let us renew. And do whatever is due to set up a better improved state. This is my letter to you. Whether we from the same city or of separate movements, let's get together on the 7th of June. Yes, and let's forget the past and why. Yes, besides the conscience, it's supervised by SPEC. Elect whoever you think is best and whoever you think fits the position. It's as simple as reading their program. If no man fits the spot, don't hesitate to drop a blank paper in that box. Let's rock.
صوت للوحدة الوطنية انت صوت ضد اي طائفية انت صوت ضد الالعاب السياسية انت صوت صوتك مثال الحرية انت صوت للوحدة الوطنية انت صوت ضد اي طائفية انت صوت ضد الالعاب السياسية انت صوت صوتك مثال الحرية انت
I've been waiting for, you ain't heard yet, I bet you ain't from Lebanon. My people, time to march on, we be staying strong. Make the right vote, I hope it's not paying more. I'm here to motivate you, lyrically elevate you to a higher status so you don't panic and let them make you vote for the man that paid you. This is a democratic election, I reckon you vote for who will be there to save you. And not by six, cause by six, don't buy six. 50 to 50%, you can't take sides, yet think freely, let your mind project objectively about the situation and check. Vote like we chose to vote and not blindly. I got my women, my youth, my children all behind me, saying every single vote counts, trust me. The SEC only gon' be there to make sure things don't get fussy.
صوت للوحدة الوطنية انت صوت ضد اي طائفية انت صوت ضد الالعاب السياسية انت صوت صوتك مثال الحرية انت.
Et c'était donc Intikabet avec Malika et Zog. Et donc on va... Ah oui, alors quelques brèves locales. On va commencer par l'université Lyon 2. Lundi matin, le collectif des 100 facs avait décidé d'occuper avec des tentes la cour centrale de l'université Lyon 2 pour faire inscrire une trentaine d'étudiants et étudiantes qui n'avaient pas pu s'inscrire avant. Enfin, en tout cas, qui avait été refusé. Confronté à un mur de la part de la présidente, le collectif a donc demandé à minima de recevoir favorablement 7 des 30 demandes les plus urgentes au vu de leur situation, pour leur titre de séjour, leur logement crous en jeu, ou pour des raisons de statut de réfugié politique. La présidence a refusé, mais elle a accepté, par contre, l'intervention des flics ce matin à 7h sur le campus pour expulser tout le monde. Le collectif a appelé un rassemblement en réaction cet après-midi à 16h, donc affaire à suivre. Bonne nouvelle quand même dans le coin, puisque un nouvel immeuble squatté a ouvert au 24 rue Chevreul dans le 7e arrondissement de Lyon. Cette ouverture fait suite à de nombreuses expulsions depuis la rentrée, notamment le CG ou le squat de la rue de Bourgogne dans le 9e. Il y en a eu plusieurs. Donc ça va faire un peu de bien à tout le monde. Si pour le moment les occupants et occupantes ne connaissent pas la procédure qui va s'appliquer, parce que depuis la loi Casbarian, il ne s'agit plus de savoir si le squat tient après ses 48 heures et le premier constat des flics, mais de savoir si il y a des histoires de procédures ultra accélérées, déjà qu'elles étaient quand même pas bien longues, mais on ne va pas rentrer dans le détail de cette loi là, mais elle précarise encore plus les squats que ce qu'il n'était avant. Donc pour le moment les occupants et occupantes ne savent pas non plus tout à fait à quelle sauce ils vont être mangés par la justice. Mais en tout cas, ils et elles sont plutôt contents et contentes de voir passer du monde, leur faire un petit coucou, leur apporter du soutien, du café chaud, des gâteaux sympas à manger, enfin bref, tout ce qui peut un peu leur faire plaisir. Et je pense que ça vaut quand même le coup de scruter régulièrement le site rebellion.info. Ils actualisent régulièrement où ça en est, et s'il y a des besoins de soutien un peu rapido, ça allait pour aller les voir.
Alors, il y a notamment quand même toujours besoin de soutien devant et à l'intérieur, s'il y a des gens qui veulent y dormir, par exemple. Et c'est au 24 rue Chevreul, donc dans le 7e.
Voilà. Moins bonne nouvelle, puisque l'entreprise Daikin, située au sud de Lyon, dans cette fameuse et magnifique vallée de la chimie qui est dans le sud de Lyon, est entreprise responsable de très nombreuses pollutions au PFAS, polluant éternel, a vu son projet d'extension validé. Alors c'était un projet qui était contesté par tout un tas de collectifs, alors des collectifs qui étaient très très présents à Oulin Pierre Bénite, parce que c'est quand même principalement là où se concentrent les pollutions, mais les pollutions elles s'étendent jusqu'à Givors, elles vont un peu plus dans les monts là, enfin bref, il y a
parce que c'est beaucoup des pollutions de l'eau.
Et c'est ça. Elle coule avec le Rhône. Quoi.
Exactement, c'est les pollutions de l'eau, elle coule avec le Rhône. Puis il y a aussi quand même un petit peu des histoires de pluie. Enfin bref, c'est un peu, vraiment une sale pollution. De nombreuses études ont démontré que la pollution, que cette pollution massive concernait au moins 18 communes avoisinantes. Daikin et d'autres industries de la vallée de la chimie sont soupçonnées d'avoir volontairement diminué l'impact de ces PFAS sur l'environnement. C'est un peu un classique. C'est des collectifs locaux qui avaient fait faire des mesures sur les sols autour pour dire, bah non, en fait, quand même, ça craint ce qui se passe. En gros, on appelle ça polluant éternel parce que, alors je vais pas rentrer dans les détails parce que je les connais pas, mais en gros il y a tout un tas de polluants où à force de traitement, d'attente, de tout un tas de procédés qui peuvent être soit laisser passer le temps, soit des procédés de, et ben on arrive à s'en débarrasser. Ceux-là, quand on dit qu'ils sont éternels, c'est pas qu'ils sont très très longs, c'est pas qu'il y en a plein où genre c'est genre dans 10 000 ans ça disparaît. Là pour l'instant, on est sûr que ça va pas disparaître. Quoi. On sait qu'ils sont là et que si on les laisse échapper dans la nature, ils seront là. Ils seront là à vie et ils sont responsables quand même de beaucoup de méfaits sur l'environnement.
Et sur la santé des gens qui boivent l'eau.
Et sur la santé des gens
et
qui boivent
l'eau. Et des animaux qui boivent l'eau, du coup.
C'est ça. Et en tout cas, donc, quand les résultats étaient apparus, les taux avaient complètement explosé. Suite à ces prélèvements, donc, la préfecture avait refait des prélèvements qu'ils avaient validés et tout, elle préconisait de ne plus consommer les œufs, la chair de volaille, ainsi que la consommation de fruits et légumes de ces communes. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que dans cette vallée, il y avait aussi, du coup, des jardins ouvriers qui avaient été faits pour les salariés, notamment de Daikin et des boîtes autour qui avaient du coup leur petit jardin qui cultivaient leur jardin depuis de nombreuses années, qui bouffaient donc la merde qui était rejetée par les entreprises dans lesquelles ils bossaient et ils se sont donc doublement esquintés de la santé par les trucs qu'ils avalaient en plus des pollutions qu'ils recevaient sur le site. Donc si la préfecture recommande aux habitants de ne plus consommer dans un rayon de 500 mètres, et donc ça va s'arrêter pas aux œufs, à la chair de volaille, mais également à tout ce qui est fruits, légumes et jardins potagers dans le secteur. Par exemple, ça concerne également donc de pas retraiter les eaux pluviales, c'est-à-dire que ces endroits où on déconseille s'il pleut de récolter son eau pour arroser son jardin parce qu'elles sont polluées, les puits privés qui peuvent être accessibles. Pour les collectifs, le rayon de 500 mètres est largement diminué par la préfecture, ce qui n'est pas très étonnant parce que c'est cette même préfecture qui a validé l'autorisation à Daikin de pouvoir étendre son activité tranquillement alors qu'elle est quand même en plein scandale environnemental. Mais bon, ça, a priori, ça ne choque pas trop.
Une dernière brève de Lyon, mais du coup une bonne nouvelle. Une convention d'occupation va être proposée aux personnes qui squattent le quai d'Arloin.
Quai Arloin.
Voilà, le quai Arloin. Il devait être théoriquement expulsable à partir de demain. Et c'est donc 80 personnes qui devraient au moins pouvoir passer l'hiver au chaud. Je dis au moins parce que j'ai pas les précisions sur le contenu que tu faisais.
Non, mais squat occupé par le collectif Solidarité entre femmes à la rue.
On a des petites brèves un peu. Allez, c'est ton tour là. Hop, 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 on se réveille.
Non, c'est à lui. Moi, c'était celle-là que j'ai fait.
Ah, vas-y.
En Isère, des gens du voyage s'établissent sans autorisation sur un parking à Bourgoin-Jallieu.
Voilà ça. Ben alors, vous êtes bien sur Sud Radio.
En fait, quand on prépare les infos, je fais souvent un tour sur le fil d'actu du journal gratuit 20 minutes. Parce que c'est vrai, c'est un journal qui n'a pas peur et qui parle des vrais problèmes. Alors précisons que, sans vraiment lire l'article, je l'ai parcouru, et qu'on y trouve cette précision, parce que 20 minutes, c'est pas le progrès, ils ont quand même une forme d'honnêteté. Pour ce moment, aucun dégât n'a été constaté sur le parking, si ce n'est des plots en béton qui ont été déplacés pour pouvoir stationner les véhicules.
Ah bah du coup c'est à moi, pardon. Le ministre de l'Intérieur, pardon, est un démagogue ou un idiot, je sais pas, et je fais pas de diagnostic sauvage, c'est mal. Toujours est-il qu'il vient de proposer une super solution pour lutter contre le trafic de drogue. Il va saisir les biens des dealers, soit une loi qui existe depuis 2007 et qui a été refondée cet été. Il va falloir s'habituer aux déclarations ineptes du Sarkozy de chez Wish.
Ah tiens, vous avez remarqué ici au Canu Info du mercredi, on vous parle pas tellement, voire si ça se trouve jamais jusqu'à maintenant, du procès des assistants parlementaires du Front National. Alors je crois que c'est parce qu'on est globalement pas beaucoup passionnés. Notre problème avec le FN ou le RN, c'est pas tellement qu'ils fassent comme tous les autres partis, du PS aux Républicains, de la France Insoumise au Modem et tout ce monde-là ensemble qui arrive loin derrière, en dessous de la cheville des macronistes. Notre problème avec les fachos, c'est que c'est des fachos, c'est qu'ils sont racistes contre... comme toute première motivation de politique, et c'est qu'ils y ajoutent aussi un anti-écologisme radical. Alors bon, les assistants parlementaires.
Et en plein procès des réseaux illégaux de familles d'accueil de l'ASE, le député de droite, alors c'est un LR je crois, mais je sais, je suis pas exactement sûr desquels, ça a l'air d'être LR Canal Historique et pas Canal Futur Fasciste, Fabien Di Filippo, il a proposé de supprimer le pécule des enfants placés.
C'était pour Filippo, parce que c'était Florian Filippo.
Ouais, mais non, ça c'est Fabien Di Filippo. Ouais, mais ça ressemble au type qui est un peu complotiste. Là, il y a un Laurent Di Filippo. Enfin bon, faut écouter. Du coup, pardon, il a proposé de supprimer le pécule des enfants placés. Donc, depuis 2016, les enfants placés se voyaient remettre à leur sortie des dispositifs une somme qui équivaut aux allocations de rentrée qui
nous... Ah, le pécule !
Ouais, le pécule. J'ai dit quoi ?
Non, t'as dit ça.
Ah ouais, pardon. D'accord, okay. Le pécule des enfants placés. Bravo. Donc c'est une allocation qui équivaut, un pécule du coup, qui équivaut à la somme des allocations de rentrée qui n'a pas été versée à leurs parents pendant tout le temps où ils étaient placés. Donc ça faisait pas non plus une énorme somme. En plus, en cherchant un peu, j'ai remarqué que du coup c'est pas automatiquement versé, il faut qu'ils fassent la demande. Du coup il y a des taux de non-demande équivalents à je crois 40%, ce qui laisse à la Caisse des dépôts et consignations un truc en millions, je crois que c'était 126 millions d'euros. Mais enfin bon, c'était pas super, mais en tout cas ça faisait déjà un petit peu de pognon pour ceux qui le demandaient. Et du coup lui il propose de le supprimer. On rappelle que du coup les enfants placés ils représentent 20% des SDF français, enfin des SDF qui sont aussi français, parce que du coup vous imaginez ça baisse si on met tous les SDF. Et ceux de moins de 25 ans ils représentent quand même 40% des 10 SDF français, sachant que pour la, par rapport à la population, les, gens, les enfants placés, c'est 2 à 3%, ce qui fait une large, large, large surreprésentation.
Ah, et t'avais parlé du ministère de l'Intérieur, on va en reparler, parce qu'on a quand même...
Ouais, c'est notre préféré.
Et le diable se cache dans les détails. Alors, un ministère, c'est pas grand-chose sans ses portefeuilles. Hein. Donc, les portefeuilles, c'est les compétences, pas que l'argent. Mais c'est aussi l'argent qui va avec ses compétences. Qui relève de celui-ci. Alors, il y a les évidences. Hein. Par exemple, le ministère de l'Intérieur, pour celui dans lequel on va parler, il a à la charge la lutte contre l'insécurité et la lutte contre les stupéfiants. T'en parlais tout à l'heure. Mais là, Retailleau s'est vu doté de la compétence de... Attention... Je cite, la lutte contre les discriminations en raison des orientations sexuelles, des identités de genre, ainsi qu'à l'égard des personnes intersexuées. Alors lui, le traditionnaliste vendéen, proche de Philippe de Villiers, fervent opposant au mariage pour tous, et fervent défenseur de opposant à l'interdiction, pardon, j'ai failli me tromper. Donc fervent opposant à l'interdiction des thérapies de conversion, loi qu'il considère comme un, je le cite, un cheval de Troie de l'idéologie du genre, déclaration faite aux médias d'extrême droite. Boulevard Voltaire, donc c'est-à-dire que lui à chaque fois on coche toutes les cases. Donc on aurait pu imaginer que voilà, bon bah là c'est vrai que vu le pédigré du gars, on se dise bah là non mais là ça nous saute aux yeux qu'un tel portefeuille soit au ministère de l'Intérieur, et mais que ce soit quand même une vieille habitude et que ce portefeuille dépend du ministère de l'Intérieur. Bah non, il en est rien. Durant le précédent gouvernement, par exemple, il était rattaché au ministère délégué chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations. Ça paraît, c'est à peu près cohérent avec l'objectif du ministère. C'est donc là, on a donc affaire à un véritable choix fait par le Premier ministre Barnier, et le choix qui menace quand même clairement les personnes LGBTQIA+, les associations et les militants de la cause.
Tu veux dire qu'ils vont faire un ministère de la protection de la biodiversité et qu'ils vont le confier à Willy Schren?
Ça fait un peu ça quoi.
Sachant qu'on n'en parle pas, mais il y a eu une contre-manifestation à Paris. Ils ont arrêté 63 personnes qui étaient les 63 contre-manifestants. Allez, tout le monde au poste. C'était dans le cadre d'une conférence d'une transphobe célèbre qu'on ne citera pas pour pas lui faire de la pub.
Ah oui, tout à fait.
Canu Info.
du mercredi.
T'as oublié une brève.
Qu'est-ce que tu dis toi?
J'ai oublié une brève. Mais c'est pas grave.
Ah bah vas-y, vas-y.
Je vais la faire.
Vas-y, fais-la.
Dans certains pays en guerre, ce n'est pas seulement le fracas des bombes qui provoque des sueurs froides. En effet, en Russie, les ultra-conservateurs s'inquiètent de l'émergence de la quadrobique, cette tendance fitness qui imite des animaux. Considérée comme une idéologie déviante et satanique par le gouvernement, la quadrobique est une discipline qui consiste à faire du sport comme des animaux. Elle risque d'être bientôt interdite en Russie. Cette activité sportive, pour le moins insolite, a été popularisée par le japonais Kenichi Ito, recordman du monde du 100 mètres à 4 pattes. Mais en Russie, les plus vigilants des gardiens des valeurs traditionnelles y perçoivent une déviance typiquement occidentale. Sergueï Mikhaïev assimile même cette discipline aux pratiques sexuelles BDSM. C'est de la merde sadomasochiste. Il s'agit d'essayer d'impliquer les enfants dans ce genre de choses dès leur plus jeune âge, a déclaré le philosophe russe.
C'est les Russes.
Et là, en Russie, et c'est très sérieux, on frôle l'affaire d'État.
Voilà, on met pas de... on aurait presque pu te mettre un générique Laurent Delabousse quoi, avec une bref comme ça quoi. Et du coup on part en Israël.
Et oui, parce que si vous vouliez avoir des infos sur la bataille du budget à l'Assemblée nationale et sur le Proche-Orient, vous auriez eu qu'à écouter France Info. Mais si vous voulez que le Proche-Orient, ça va, vous pouvez rester. Bon, donc le petit tour réglementaire par le Proche-Orient. L'armée israélienne a bombardé le Liban et Gaza, elle a tué des tonnes de civils et plein d'enfants. Aujourd'hui, comme hier, comme demain, je ne m'attarde pas là-dessus, c'est pas la peine d'écouter le Canu Info pour savoir ça, ni même d'écouter les infos tout court, on le sait, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, une petite tendance des derniers jours semble se confirmer sur le terrain diplomatique. Les plus fermes soutiens d'Israël commencent à être sérieusement saoulés. Alors il faut dire qu'ils y vont fort, les militaires israéliens, entre les bombardements qui finissent, il fallait bien que ça arrive, par donner des images d'un jeune type, un ado en train de brûler vif, filmé et envoyé sur les réseaux sociaux du monde entier. Entre les prisonniers, envoyés sans formation et sans équipement pour déminer des maisons potentiellement piégées à Gaza. Aussi le fait quand même d'attaquer carrément les casques bleus. Nouveauté depuis vendredi. Et ça quand même, a priori qu'un pays occidental fasse ça... Je sais pas quand il faut remonter, mais ça se fait pas trop quand même. Parce que et tout ça parce que Tsahal, et alors pardon, d'attaquer les casques bleus et de donner des ordres aux forces de l'ONU. En l'occurrence, faites dégager vos casques bleus. Tout ça parce que Tsahal est quand même plus à l'aise pour massacrer quand il y a personne d'extérieur.
C'est ça parce que je trouve que attaquer des casques bleus, j'imagine ça a dû se faire, mais après hop, ils répondent pas trop, ils disent ah on n'a pas fait exprès, tout en ayant fait exprès et tout. C'est quand même pas souvent qu'ils assument en disant en ayant attaqué des chars et après le lendemain dire maintenant vous dégagez, sinon on continue.
Ouais, c'est ça
quoi.
De dire ah on n'a pas fait exprès, par contre on va recommencer.
Ouais.
Et puis aussi maintenant d'insulter des chefs d'État qui ont pourtant eu beaucoup énormément de patience face au massacre qui dure depuis un an maintenant, ça commence à faire pas mal. Au point que même Macron, qu'on peut pas trop accuser d'avoir des préjugés contre Netanyahou quand même, même Keir Starmer et finalement même Joe Biden hausse le ton encore d'un tout petit cran. Alors comme ça, début novembre, il va y avoir à Paris. Alors bon, ça vous allez voir, c'est un peu chelou cette histoire. Un grand événement de marchands d'armes, une sorte de grande rencontre de marchands d'armes. Un truc qui s'appelle Euronaval, c'est comme Eurosatori, mais...
C'est pas chelou cette histoire-là.
Non, non, mais attends, ce qui est chelou, c'est la suite. Ça, effectivement, c'est un grand salon de
navires
de guerre.
Un des nombreux grands salons de la guerre en France.
Il y a le salon de l'automobile, puis il y a le salon de
la... Il y a les 10 salons de la guerre.
Ouais. Tout à fait. Non, le paradoxe de l'affaire, c'est qu'on dirait que les assassins de masse, ils seraient mal vus. Et ça, c'est quand même un peu étonnant. Alors que les armes, dites-moi, ça sert à quoi ? Non, en fait, à y regarder de plus près, c'est pas les assassins de masse, c'est juste un assassin de masse qui sera mal vu. La France a donc officiellement annoncé qu'il n'y aura à ce salon ni stand ni matériel israélien. Et ça les fait quand même bien chier les Israéliens. Enfin, les industriels de l'armement israélien et aussi le gouvernement israélien. Ça les fait bien chier parce que quand même, tuer, c'est un savoir-faire. Et c'est comme si le leur n'était pas reconnu. Ou alors comme s'il était trop reconnu. Enfin, on ne comprend pas exactement les enjeux éthiques autour de tout ça. Mais ce dont on est sûr, c'est que c'est encore une occasion pour Netanyahou et Macron de se dire des insultes par médias interposés ou au téléphone, mais en prévenant les médias. Enfin, ils ont différentes manières de le faire. Une pratique, en tout cas, qui a la tendance à devenir quasiment quotidienne depuis une grosse semaine. Pendant ce temps, le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a affirmé que son gouvernement examinait d'éventuelles sanctions contre deux ministres du gouvernement israélien. Deux des ministres d'extrême droite du gouvernement israélien, comme si dans le gouvernement israélien d'aujourd'hui, il y avait des ministres qui n'étaient pas d'extrême droite, mais juste de droite dure, peut-être. Enfin, c'est toujours pareil, c'est entre Ciotti et Bardella, et moi, difficile de faire la différence. En tout cas, en l'occurrence, Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, pour ce que Keir Starmer a qualifié de propos odieux. Alors, on parle donc de Bezalel Smotrich qui avait dit en août, lors d'un colloque, que laisser mourir de faim des habitants de la bande de Gaza pourrait être justifié et moral pour faire libérer les otages. C'est vrai que c'est dégueulasse, hein. Mais voilà, le gouvernement britannique semble se rendre compte aujourd'hui que Ben-Gvir aussi met de l'eau sur le feu, parce que, alors lui, ce qui lui est reproché, c'est en l'occurrence encore un truc qui date du mois d'août dernier, qu'il était allé faire une prière, donc une prière juive, sur l'esplanade des mosquées, qui est une sorte de truc méga provoque, genre les musulmans, barrez-vous, parce que moi je vais tout niquer et je vous crache dessus en passant. Alors voilà, bon, il nous fait bien marrer Keir Starmer de voir tout ça aujourd'hui, après tellement de propos d'appel au génocide, je sais pas si vous vous rappelez les histoires d'animaux à visage humain, il me semble que c'est aussi Ben-Gvir. Alors bon, mieux vaut tard que jamais, mais là on dirait quand même surtout que l'histoire du Liban et l'histoire des attaques contre les casques bleus, ça secoue quand même un peu tout le monde. Et même Biden, pour la première fois, a fait une menace qui, ma foi, si elle avait un tout petit peu de crédibilité, pourrait réellement être une menace qui change le cours de la guerre, en tout cas qui pourrait sans doute sauver quelques centaines, milliers, dizaines de milliers de vies. Il a menacé hier de cesser les livraisons d'armes si Israël ne prenait pas sérieusement en compte les besoins humanitaires des civils à Gaza. Alors vous emballez pas, quand il parle de besoins humanitaires, il parle quand même pas du besoin de ne pas se faire tuer par des bombes. Il en parle d'autant moins qu'en fait toutes les bombes qui tombent sur Gaza viennent des States. Mais il voudrait, Biden, que des camions d'aide humanitaire puissent entrer dans Gaza en quantité suffisante ou presque suffisante pour nourrir les gens.
Pardon, mais en plus, il semble que là, déjà le compte-goutte d'aide humanitaire qui est rentré dans Gaza a été encore ultra diminué par le gouvernement israélien.
Ouais, sans parler des quelques camions qui sont autorisés à passer par le gouvernement, mais qui se font attaquer par des Israéliens, voire des...
Et des camions qui sont autorisés à passer, mais pour vendre les trucs.
C'est génial.
Ouais, c'est cool. Ils font passer des camions, mais pour ils vendent. C'est plus de l'aide humanitaire, c'est du commerce pour le peuple que tu assièges, finalement. Ils se sont dit, pourquoi on le ferait passer gratuitement, cette aide, on n'a qu'à les faire payer.
Voilà. Bon, bah, de toute façon, pas trop de risque l'énervement de Biden, et alors des autres encore moins, serve à quelque chose, puisque dans 3 semaines, il y aurait eu des élections chez les Amerlocs, et on saura qui est le nouveau ou la nouvelle présidente. Ce qu'on sait déjà, c'est que ça ne sera pas Biden de toute façon.
Pardon, alors, mais avec la toute petite pression, c'est qu'a priori, il semblerait que, et enfin, je veux dire, ça a l'air plutôt officiel, que là, les stocks de munitions d'Israël pour son dôme de fer, là, pour ses espèces de roquettes de défense, c'est ce qui lui permet de tuer les roquettes en plein vol et d'éviter qu'elles attaquent.
Quand ils se font bombarder par l'Iran.
Par l'Iran ou par. Bon, attends, c'est vrai que maintenant, il n'y a peut-être plus que l'Iran qui est capable. Mais, et du coup, leur stock commence à être sérieusement atteint et atteint un stade critique. Ils attendent quand même un peu de recharge de la part des États-Unis. Donc, peut-être que le moment où il dit ça, c'est pas non plus complètement anodin.
Après, les menaces sont plutôt sur les bombes que. Parce que même Macron, qui a tapé du poing en disant maintenant il faut cesser tout de suite les livraisons d'armes, il
parlait pas de.
Les livraisons d'armes d'attaque, on continuera à.
Oui, c'est ça. Ce dôme de fer a l'air de protéger globalement l'Occident entier. Et donc, a priori, il faudrait qu'ils aillent vraiment très loin pour qu'un pays occidental considère qu'ils peuvent laisser mourir des civils israéliens. Bon, ce qui est une bonne chose, hein.
Nous, on n'est pas. Globalement, on n'est pas pour que les civils meurent.
Israéliens.
C'est bien qu'ils meurent pas, les civils.
C'est ça.
En tout cas, ah oui, c'est ça. C'est que du coup, il va bientôt y avoir les élections en Amérique. Et que c'est vrai que dans ce pays un peu chelou, la passation de pouvoir arrive plutôt 2 mois après les élections. Donc les élections, c'est dans 3 semaines. Donc ça laisse un peu de temps à Biden, où il est encore là. Mais ça serait quand même étonnant que cette espèce de vieux gâteux, là, il fasse une grosse rupture de sa politique juste pendant cette période. Enfin bon, on verrait, mais ça serait étonnant.
Ah, peut-être s'il perd et qu'il a les boules. Parce qu'il n'est pas en train de trop l'aider à gagner, l'autre.
Ah bah ça, c'est sûr que Netanyahou, pour le coup, lui, il attend tellement, mais alors tellement Trump. Et c'est sans doute pour cette raison qu'il n'a plus aucune limite. Et si jamais Trump était élu, Dieu seul sait, parce que bon, entre Trump et le gouvernement israélien, je peux vous dire que la laïcité, c'est pas exactement leur tasse de thé. Dieu seul sait, donc, si Trump est élu, jusqu'où ces deux dingues sont capables d'aller pour établir le grand Israël et débarrasser le Moyen-Orient des Arabes.
Et pour finir toujours là-dessus, un petit conseil de lecture, c'est sur le site orient21.info, alors c'est orientxxi.info. Il y a un journal de bord qui s'appelle le journal de bord de Gaza, qui en est déjà à son numéro 57. Et voilà, c'est fait par un journaliste qui était un peu qui a fait un peu la une ces derniers jours. C'est Rami Abou Djamous
Celui qui a eu un prix pour.
Ouais, il a eu même 4 prix, ce qui s'était jamais trop fait. Mais voilà, donc du coup, lui, il est à Gaza, il tente de relater un peu de. Il fait du taf de journaliste, il fait partie des rares journalistes à être encore en vie dans le Gaza. Et voilà, il relate, et ce journal de bord, en tout cas, est paraît sur le site orient21.info. Et on va aller du côté du Kurdistan.
On commence avec la partie turque du Kurdistan, et suite à la manifestation pour la liberté organisée par le mouvement politique kurde, 269 personnes ont été arrêtées dans 36 provinces du pays. Le ministère turc de l'Intérieur a annoncé qu'un total de 269 personnes avaient été arrêtées lors de perquisitions à domicile dans donc 36 villes. Les arrestations ont été menées après la manifestation pour la liberté organisée par les associations et politiques kurdes à Diyarbakir le 13 octobre, demandant la libération d'Abdullah Öcalan. D'ailleurs, la Turquie compte actuellement des dizaines de milliers de prisonniers politiques, dont une majorité d'opposants kurdes. Ce chiffre vient grossir la gigantesque population carcérale des prisons turques. Avec 350 000 personnes derrière les barreaux, la Turquie a le taux d'incarcération le plus élevé des 47 pays membres du Conseil de l'Europe. Les prisonniers et prisonnières politiques sont des sujets politiques qui luttent en prison ou en isolement, écrit Zeki Bayan, qui lance un appel pour soutenir cette lutte. Alors comment les aider? Je la cite. Si chacun des avocats... Alors je la cite, mais c'est quand même une phrase plutôt pour les gens qui sont sur place là-bas au Kurdistan de Turquie. Ou en Turquie. Si chacun des avocats patriotes, révolutionnaires et démocrates prenait la procuration d'un de ses amis, et même s'il les rencontrait pour une heure de conversation tous les 3 mois, ce serait une bouffée d'air frais pour ses amis. Si chacune des personnes bienveillantes devenait le correspondant. De telles actions sont-elles si difficiles? C'est à vous de voir. Nous devrions prendre l'isolement dans son endroit le plus sombre et commencer la lutte à partir de là. N'oublions pas cet endroit. L'isolement peut être froid, mais l'esprit de résistance est chaud. Avec la chaleur de celles et ceux qui résistent. Maintenant, on passe à la partie iranienne du Kurdistan, parce qu'on en parle peut-être moins souvent, bien que la répression y est aussi bien présente. Donc, au Rojilat, partie iranienne du Kurdistan. Suzanne Hasanzadeh, militante des droits civiques et professeure de langue kurde, a été condamnée à 3 mois de prison par la branche 101 du 2e tribunal pénal de Boukhan, dans la province d'Azerbaïdjan occidental, pour propagande contre l'État. Hasanzadeh s'est vu refuser les visites de sa famille et l'accès à un avocat tout au long de sa détention. Professeure de langue kurde depuis 17 ans à Boukhan et dans les villages voisins, elle a été convoquée et interrogée à plusieurs reprises par les services de sécurité ces dernières années, en raison de son activisme pour les droits humains. « Enfin, et pour finir, si vous allez à Marseille à la fin du mois, je vous propose un petit truc un peu intéressant, je pense. Et c'est donc à Marseille, la 5e édition du festival Les Peuples Veulent, qui aura lieu le 26 et 27 octobre prochain à la Cité des Arts de la Rue à Marseille. Et vous pourrez y assister à deux tables rondes ayant pour thème la guerre colonialiste. La première, dont le thème sera « Tisser des alliances transnationales depuis l'exil avec l'Égypte, le Kurdistan, l'Iran, le Soudan et la Syrie », suivi par un atelier à 12h. Et je vous donne le thème de la deuxième table ronde à 15h, cartographie du régime global de guerre au cœur des zones de guerre impériale et coloniale, Palestine, Kurdistan, Ukraine et Soudan. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez vous renseigner en tapant sur internet, vous aurez plus de détails.
Et il est 19h55, on a fini ce qu'il y a eu info, on va finir par le traditionnel agenda.
Ils ont dû tous croire qu'on avait pris en otage la radio et qu'on n'allait jamais la rendre. C'est une idée noire qui est arrivée, ils se sont dit merde, qu'est-ce qui se passe?
Et moi en agenda j'ai juste, et c'est déjà pas mal, la marche pour stopper l'agression israélienne à Gaza et au Liban le samedi 19 octobre à 15h, place Jean Massé. Est-ce que vous avez d'autres trucs, vous ?
Il y a la CNTSO qui organise mardi... Ben non, mais pardon, je me suis gouré. Mais qui a repris ses trucs.
C'est permanent.
C'est cycle de conférences sur les sans-papiers. Et du coup, il y en a une vendredi 18, pardon. Pardon, excusez-moi, je me perds dans le... parce que l'article est mal foutu. Bon, allez voir sur Rebellion, il y a plus d'infos.
Ah, et puis de toute façon, vous en faites pas.
Régularisation par le travail des personnes étrangères.
C'est mardi. Tout à fait. Moi, je tiens à redire que le nouveau squat du 24 rue Chevreul a besoin de votre présence, ou devant, ou à l'intérieur. Et vous pouvez amener des trucs à manger. Et je crois qu'ils ont un peu besoin de trucs pour nettoyer si personne n'en a amené encore.
Voilà. En tout cas,
et voilà, ciao.
Merci de nous avoir écoutés.
Radio Canu. Oh. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Puerta, y hay al otro lado. Cuando vine de mi tierra, ninguna gracia tenía. Cuando vine gracia tenía, me vine a ver si cambiaba, tristeza por alegría, me vine a ver si cambiaba, tristeza por alegría.
Déjame ver
detrás de la puerta,
déjame ver
que hay al otro lado,
déjame ver
detrás de la puerta,
déjame ver
que hay al otro lado. Si yo fuera pajarito, no me ocuparía en volar. Si yo fuera pajarito, no me ocuparía en volar. Me sentaré en el camino para mirarte pasar. Me sentaré en el camino para mirarte pasar.
Déjame ver
detrás de la puerta,
déjame ver
que hay al otro lado.
Déjame ver
detrás de la puerta,
déjame ver
que hay al otro lado. En los labios de tu boca quisiera escribir.